Putain de merde.
T'as bien verrouillé les caméras de surveillance, hein? Rassure-moi.
Ouais, ils voient la même image du hangar pendant une heure, ils sauront même pas qu'on a été là.
Ils arrivent. C'est bien eux. Quatre, trois hommes, une femme.
Putain de merde de chiottes.
Oublie pas qu'ils sont avec nous. Je vois que Paul vous a bien remis la voiture. Le voyage s'est bien passé depuis New York ?
Putain, la question à la con.
Fais pas chier. Nous vous avons trouvé un endroit sûr, comme convenu.
Pourquoi ils disent rien ?
Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ils parlent peut-être que l'hindou, un de ces trucs mystiques. Vous permettez que je prenne votre mallette ?
Merci de votre aide, mais ceci restera en notre possession. Nul d'autre que nous n'a le droit de la porter.
Bien sûr, oui, bien entendu, comme vous voudrez.
Vous verrez, vous allez vous plaire à Paris.
Jean-Pierre, même chose. Mais non, j'ai pas assez bu. Allez, Serge, je te dis. Puis j'ai de quoi payer si c'est ça qui t'inquiète. Il s'appelait Jean-Pierre. Mais de Jean-Pierre ou même d'un être humain, il n'avait rien de semblable. 200 ans. Depuis 200 ans, la Terre ouvrait ses frontières aux races intelligibles disséminées dans la Voie lactée alentour. Jean-Pierre était un des rares aliens à avoir obtenu un droit de séjour. Même si la Terre entretenait des relations cordiales avec les autres civilisations, peu d'extraterrestres se voyaient accorder le droit d'y passer quelques vacances, et encore moins d'y vivre. Jean-Pierre était une des rares exceptions, le seul Blévias européen. 23 autres s'étaient installés dans l'hémisphère sud. Si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble un Blévias, si vraiment vous en sentez le courage, imaginez une pieuvre à taille humaine constamment assise sur une chaise antigravité, et qui, par sa conception fragile, serait coutumière d'un rhume carabiné. L'éternuement chez un Blévias, c'est comme une seconde respiration. J'arrivais pas à dormir. Ouais, ça aussi j'ai essayé, mais ça a pas marché. Merci. J'ai levé mon verre à l'attention de mon délicieux hôte qui n'a pas manqué de me remercier d'un de ses tentacules. Accoudé au comptoir, je me suis retournée, parcourant la salle enfumée d'un œil rapide. La faune du Paris nocturne, rien de bien plaisant. La plupart, des artistes en mal de sensation, des gangsters de toute confession et quelques trafiquants. J'avais l'impression de regarder derrière moi. J'aurais pu me reconnaître parmi certaines de ces filles. J'ai soupiré et je me suis rassise confortablement sur le tabouret. Si tant est qu'un tabouret puisse être confortable.
Ibanez, Mara Ibanez.
Des policiers de secteur. Ils se reconnaissent rien qu'au phrasé de cette foutue manie de prononcer d'abord le nom de famille, puis le nom complet. Je n'ai même pas daigné me retourner. Eux aussi faisaient partie de mon ancienne vie. Mais je n'avais aucune envie de les regarder avec un brin de nostalgie. Je suppose que c'est moi.
Si vous voulez bien nous suivre.
Par deux. Les policiers de secteur avancent toujours par deux. Et vous me lisez pas mes droits avant ?
Dans cette situation, j'ai bien peur que vous n'en ayez aucun.
J'ai juste tourné la tête. Froid, distant, droit comme des bâtons, une main dans le dos, l'autre près de la ceinture, près de l'arme. Les descentes dans les bas-fonds de Paris sont souvent meurtrières pour eux. Car lorsqu'ils viennent, c'est pour affronter la lie de la population, ceux qui n'ont rien à perdre, et pour qui la vie ne peut plus dire grand-chose. Laisse, Jean-Pierre. Je connais ce genre de gus. Et je vais pas me salir les mains en me défendant.
Ne nous obligez pas à user de la force.
Vous voulez m'emmener où, comme ça ?
Au siège de la police sectorielle, mademoiselle.
Ni plus ni moins.
agent d'équerre ?
Ouais.
Nara Ibanez est en route, agent d'équerre.
Bien. Très bien. Dès qu'ils se poseront, qu'ils me l'amènent. Et je ne prends plus aucun appel.
Bien, monsieur.